Croyez-vous que cette parole est vivante, efficace? Amen. Donc, on va faire cette déclaration. Je vais vous inviter à prendre votre Bible entre vos mains. Si vous êtes venu, vous n'avez pas une Bible avec vous, vous avez reçu une feuille à la porte avec presque tous les versets qui sont marqués là-dessus. Et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu une feuille, mais qui aimeraient en avoir une pour pouvoir suivre avec nous? Juste lever la main, en placer ici, va vous donner une feuille. Mais on va faire cette déclaration de la foi. On va prendre nos Bibles, on va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et je suis à l'écoute. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais transformé et changé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc ce matin, on va continuer notre série « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Déjà, 7 messages qu'on donne sur ce sujet. Mais je vous invite à aller avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Et on a vu à travers les semaines combien la foi est importante pour nous et même pour Dieu. On a vu qu'est-ce que la Bible dit, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a vu que pour recevoir de Dieu, que ce soit la guérison, le salut, n'importe quelle promesse que Dieu nous a faite, que ça prend absolument la foi. Et on a vu un paquet de choses importantes. Et si vous n'étiez pas présent, je vous encourage soit d'aller sur notre site web et d'écouter les messages, car tous les messages du dimanche matin sont archivés sur le site web, pas tout, mais on recule quand même, je sais pas combien, Serge pourrait nous dire, 3 mois, à peu près 3 mois de messages qui sont toujours sur le site web. Donc, allez écouter, c'est gratuit, ça coûte rien. Sinon, si vous voulez avoir une cassette, procurez la cassette, parce qu'on a dit beaucoup de choses importantes. Mais aujourd'hui, on va parler de choses qui est encore importantes, et on va voir l'importance de croire avant de voir. Combien de vous, vous avez entendu les gens dire que, mais dès que je le vois, je vais le croire? Hein? Moi, j'ai dit ça, moi-même dans le passé, à propos de certaines choses, hein? Et dès que je le vois, je vais le croire. Mais avant de voir, oublie ça, je pense pas que c'est la réalité. Mais on va voir ici une histoire qu'on a tous entendue dans le passé. Mais c'est pas juste une histoire, c'est pas une conte de faits ici, c'est vraiment une réalité, c'est inspiré de Dieu, cette histoire. Jean chapitre 20, verset 19, ça parle de Jésus lors de la résurrection. Il dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, tu m'en dis ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Ça, c'est les paroles de Jésus. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être heureux? Ce mot « heureux » souvent dans le Nouveau Testament, ça signifie être béni aussi. Donc, on peut dire que « heureux », on peut être dans un état de joie et on peut avoir les sentiments de bonheur, ça c'est vrai, mais c'est plus que ça. « Heureux », c'est aussi « béni ». Donc, c'est-à-dire, Jésus est en train de dire « béni ». Ceux qui croient avant de voir sont bénis. Ceux qui croient avant de voir vont marcher dans la plénitude de mes bénédictions, n'est-ce pas? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Mais combien de fois, même dans les églises, même chez nous, même moi j'ai passé par des périodes dans ma vie où j'ai eu cette attitude, dès que je le vois, je vais le croire. Mais ça, c'est pas du tout une attitude biblique. L'attitude biblique, c'est de croire à la parole de Dieu, avant de voir quoi que ce soit dans le naturel qui prouve, on pourrait dire, que qu'est-ce que Dieu a dit est vrai. Jésus avait donné des instructions précises à ses disciples. Il a dit à plusieurs reprises qu'il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, mais il a dit qu'il serait ressuscité le troisième jour, n'est-ce pas? La parole était claire. La parole était confié à ses disciples, mais la parole n'était pas crue par eux. Et en fait, même quand Jésus est apparu, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, il les a quand même repris pour leur incrédulité. On voit cela dans les autres évangiles. Mais quand il a repris ses disciples pour leur incrédulité, est-ce que c'était avec une attitude de méchanceté? Est-ce que vous croyez que Jésus était méchant avec ses disciples? Moi, je pense que c'était sûrement avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, parce que Jésus savait, il faut croire pour être heureux dans la vie, il faut croire pour être béni dans la vie. Donc, des fois, les personnes vont être offensées si jamais on donne une exhortation, qu'il faut augmenter notre foi, il faut faire grandir notre foi, il faut passer à la place où on était des personnes qui était conduit par la vue, qui marchait par la vue, et il faut passer de là jusqu'à la place où on est des personnes qui marchent par la foi. Et ça, c'est pas négatif. Ça, c'est positif. Jésus a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Donc, si le pasteur ou quelqu'un d'autre dit, ne soyons pas incrédules, mais croyons, ne soyons pas offensés par cela, mais faisons attention dans la parole, et mettons ces paroles en pratique et devenions, il faut devenir les vrais croyants. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Les vrais croyants sont les personnes qui sont prêtes à croire la parole de Dieu avant de voir la manifestation de la parole. Amen? Et je pense qu'il n'y a pas une personne ici présente qui n'a jamais passé par un moment d'incrédulité. Moi en premier. On a tous eu des moments où on s'est rendu compte du fait que ma foi est un peu faible dans ce domaine. J'ai besoin de faire grandir ma foi. Ça, c'est pas négatif, c'est juste la réalité. C'est positif, ça. Et savez-vous une chose? Une personne peut avoir une foi qui est grande et forte dans un domaine et avoir une foi qui est faible ou petite dans un autre domaine. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a des personnes qui sont prêtes à croire avant de voir dans certains domaines. Par exemple, il y a des personnes qui sont prêtes à croire que le ciel existe hein, et que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ils n'ont jamais vu le livre de vie. Ils n'ont jamais vu le ciel. Ils n'ont jamais vu avec les yeux physiques les rues d'or. Mais ils sont vraiment convaincus et ils croient. Il n'y a rien qu'on pourrait faire pour les dissuader. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Mais la même personne qui est tellement convaincue que le ciel existe avant de voir le ciel et qui agit en conséquence, ses actions démontrent que sa foi, c'est pas une foi morte, mais c'est une foi vivante. Il vit dans la réalité de sa croyance. Il est même prêt à donner sa vie naturelle et mourir pour la cause de Jésus-Christ parce qu'il est convaincu que le ciel existe. Amen. Mais la même personne peut avoir une foi faible dans d'autres domaines. La personne qui est tellement convaincue que le ciel existe, s'il manque de la sagesse dans un domaine, il ne sait pas quoi faire, il est comme vraiment entre deux décisions difficiles, il ne sait pas quelle direction à prendre. Il a des fois de la misère à croire que Dieu va lui donner la sagesse quand il demande. Ou une autre personne peut être convaincue que le ciel existe, mais la personne ne croit pas que Dieu veut et Dieu peut guérir ses maladies dans son corps, par exemple. Est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce qu'on veut dans la vie chrétienne? C'est de développer une foi qui est forte, une foi qui est inébranlable, une foi qui croit avant de voir dans tous les domaines. Et c'est pourquoi ce message est pour tout le monde ce matin, parce que selon ma connaissance, il n'y a personne ici présent dans la salle qui a une foi parfaitement développée. Moi, ma foi n'est pas parfaitement développée. Je suis en train de travailler là-dessus et de grandir dans ma confiance en Dieu. Vous savez, la foi, ce n'est pas une formule. La foi, c'est une relation avec Dieu. Plus je connais Dieu, plus je lui fais confiance. Plus je connais sa parole, plus je sais qu'il ne peut pas mentir. Plus je marche avec lui, plus je vois qu'il est toujours fidèle et garde toujours ses promesses. Que même des fois, si c'est long, il finit toujours par accomplir ce qu'il a promis de faire. Amen? Donc, mais pourquoi est-ce que les gens ont de la misère avec cela? Je pense qu'il y a certaines vérités qu'ils n'ont pas encore saisies. Quand on parle de croire avant de voir. Surtout, c'est vrai, exemple, dans le domaine de la guérison divine ou de la sagesse ou quoi que ce soit. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais pour ce qui concerne la vie éternelle et le salut, les gens ont moins de la misère, mais je pense que c'est parce qu'on a eu moins d'enseignements croches pour dire le contraire. Mais souvent, les personnes qui en ont dit, par exemple, qu'il faut croire que les promesses de Dieu sont vrais et accomplis dans ta vie avant de voir la manifestation, les gens ont de la difficulté. Pourquoi? Il y a certaines vérités qu'ils n'ont pas encore saisies. Il y en a trois surtout qu'on va souligner ce matin pour commencer. Et c'est dans vos notes. La première vérité qu'il faut saisir, c'est que les choses invisibles sont une réalité. Les choses invisibles, tout le monde dit invisibles. C'est-à-dire les choses qu'il est impossible de voir avec les yeux. Les choses qu'on ne peut pas voir sont réelles. C'est une réalité. Moi, je ne peux pas voir l'oxygène, mais l'oxygène est une réalité. On peut voir, hein, il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil. Hein? Mais avec l'aide de science et certains équipements, on est capable de voir les choses qui, à l'œil nu, c'est invisible. Mais si on est capable de croire, est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a l'oxygène dans l'air aujourd'hui? Vous êtes convaincus, n'est-ce pas? Il y a l'oxygène dans l'air. On sait, on ne le voit pas, mais on sait que c'est là. Mais ça, c'est quand même, l'oxygène, c'est quand même dans une dimension naturelle. C'est sur un plan physique. L'oxygène, c'est une chose physique. N'est-ce pas? Mais il y a un autre plan, il y a une autre dimension dans la vie qui est aussi réelle. Et comme on va voir tantôt, c'est encore plus réel que le plan naturel. Ça, c'est le plan spirituel. Il y a une autre dimension qui existe. Et si on était capable, et si le Seigneur voudrait, il pourrait même donner une manifestation d'un don de l'esprit qui s'appelle le discernement des esprits. Et nos yeux pourraient être ouverts et on pourrait voir et percevoir dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, je suis convaincu, je crois fortement dans mon cœur que maintenant même, dans la salle avec nous, il y a des anges présents. Combien de vous croyez qu'il y a des anges? Vous savez, le problème, voici la chose qu'il faut vraiment faire attention. Parce que si on ne fait pas attention, on peut développer une foi qui est uniquement et seulement intellectuelle. C'est ça que les pharisiens ont fait. Les pharisiens, on voit dans le Nouveau Testament que c'était un regroupement des personnes ultra-religieuses qui connaissaient même les Écritures, qui connaissaient la lettre de la loi, mais les pharisiens ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient même pas aux anges. Donc, c'est comme si tout ce qui est surnaturel, mais il pourrait citer les paroles. Il pourrait te donner versets et références pour tout, n'est-ce pas? C'est pourquoi même ils ont tordu les choses. Ah, mais comment ça? Il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth, selon les Écritures. Hein? Ils ont manqué des bouts. Mais aujourd'hui, je m'excuse. Aujourd'hui, il y a des personnes dans l'Église, dans presque toutes les Églises, si on ne fait pas attention, on peut devenir tellement religieux, on peut être comme des personnes que Paul a exhorté Timothée, les personnes qui ont l'apparence du piété, mais qui nient la puissance de Dieu. Donc, il y a une dimension, aujourd'hui même, je sais qu'il y a des anges ici. Il y a aussi... Dans le monde, il y a des démons aussi. Il y a les anges, il y a des démons. Il y a une dimension spirituelle qui est réelle. Amen? Et la foi exige une croyance dans la dimension spirituelle. En fait, Hébreux chapitre 11, verset 1, dans vos notes, dans la parole vivante, dit « Et qu'est-ce que la foi? » C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère et c'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que vous êtes absolument certain de la réalité de ce que vous ne voyez pas? Moi, je ne vois pas le ciel. Combien de vous êtes absolument certain de la réalité d'une ville céleste? Convaincu que ça existe? Moi aussi. Convaincu qu'il y a des anges? Amen. Convaincu que le diable existe aussi? Alors, si c'est vrai, il y a des choses que Dieu a promis. Il y a des choses que Dieu a dit qu'on pourrait faire, même ici sur la terre. Il y a des choses qu'on peut prier et demander. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Comme j'ai déjà donné l'exemple, quelqu'un qui va chez le concessionnaire Ford pour acheter un véhicule, et ça se peut qu'il va acheter un véhicule flambant neuf et il va signer, même payer pour le véhicule. Et le monsieur, le vendeur, va dire, mais tu sais que le véhicule qu'on vient d'acheter ici, c'est actuellement à Toronto. Parce que nous n'avons que les autos rouges ici à Drummondville. Et toi, tu veux une auto bleue? Il y en a un, j'ai checké dans l'ordinateur. C'est sur un tel stationnement, telle place, à telle usine à Toronto. Mais on signe les papiers, on paye pour l'auto et ils disent, bon, l'auto va être livrée dans 2 à 3 jours ou 2 semaines, mettons. Donc, vous savez, une personne qui paye pour et qui a reçu pour une telle auto et même le numéro de série de ce véhicule est écrit sur le reçu. C'est un véritable véhicule qu'il n'a jamais vu de ses yeux, mais il croit que le véhicule existe. Il va même aller voir ses amis en disant, « Hey, tu sais quoi, j'ai acheté une nouvelle auto aujourd'hui. »« Ah oui? C'est quelle couleur? C'est bleu. Est-ce que je peux aller voir? » Non, je ne l'ai pas encore reçu. C'est à Toronto, ce n'est pas encore livré. Mais la personne va dire, « C'est mon auto, c'est mon char, c'est tout équipé, c'est full, c'est super. » climatisation, CD, toutes les vitres électriques, tout est là, c'est super. Ça va être la plus belle auto, hein? Ah ouais, mais comment est-ce que tu sais que cette auto existe? Parce que le vendeur m'a dit que ça existe. Le vendeur m'a montré un numéro de série même. C'est écrit là sur mon reçu. J'ai un numéro de série écrit. J'ai un reçu, c'est marqué payé. Quelque chose, hein? Et la personne va avoir une confiance, va être convaincue de la réalité de quelque chose qu'il n'a jamais vu. Donc, vous savez, on devrait être capable de faire la même chose. Dieu a promis une telle affaire, on devrait être capable de dire, merci Seigneur, je crois que j'ai reçu. J'ai déjà dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Oh, il faut croire avant de voir. Donc, imagine, hein? Qu'est-ce que le vendeur dirait? Mais, oh, je ne suis pas sûr, hein? Oh, je ne sais pas si cette auto existe vraiment. Hein? Oui, je te dis, c'est là, c'est dans l'ordinateur, telle marque, telle couleur, voici le numéro de série, oui, mais comment est-ce que je peux être sûr et certain que ça existe? Il faut que j'aille à Toronto? Ce serait de la folie, le vendeur va dire, fais-moi confiance. Et je pense que des fois, le Seigneur dit, fais-moi confiance. Je t'ai dit dans la parole, crois. Et tu vas voir. Amen? Donc, les choses invisibles sont une réalité. Tout le monde dit réalité. En fait, deuxième chose dans vos notes, toutes les choses visibles, les choses qu'on voit avec les yeux, existent à cause des choses invisibles. Toutes les choses visibles existent à cause des choses invisibles. C'est-à-dire que, dans un sens, le monde invisible est encore plus réel que le monde visible. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut toucher, sentir, entendre, goûter, tout ce qui existe dans le domaine naturel, sur le plan physique, tout ce qu'on voit avec nos yeux existe à cause de la dimension spirituelle. C'est le spirituel qui commence et donne naissance à tout ce qu'on voit dans le naturel. Et combien c'est triste de voir. C'est triste de voir les chrétiens qui sont plus portés à ne croire que ce qu'ils peuvent toucher, goûter, sentir ou entendre, au lieu de croire à ce que Dieu a dit. C'est dangereux, n'est-ce pas? Mais regardons, il y a un verset ici qui est tellement intéressant. En Hébreux 11, verset 3, c'est marqué que par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Amen. Dans la parole vivante, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Tout le monde dit, tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Tout ce que vous voyez procède de l'invisible. Toutes les bonnes choses que vous voyez, ça procède de l'invisible. Toutes les mauvaises choses que vous voyez, ça procède de l'invisible. Il y a toujours une cause spirituelle en arrière de toute chose qui existe. La parole de Dieu, Dieu a dit que la lumière soit. Est-ce que ça c'est vrai? Mais pourquoi est-ce que c'est là? C'est parce que quelqu'un a coupé un arbre et a fait des planches et a fait un lutrin avec, n'est-ce pas? Mais d'où vient l'arbre? L'arbre vient de la parole de Dieu. Dieu a dit, et l'arbre fut. Donc vous voyez que la parole de Dieu est encore plus réelle que le bois qu'on peut toucher. Amen? C'est la parole spirituelle qui a donné naissance à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on peut entendre, goûter, tout, sans exception. Donc, et c'est sûr que ce monde parfait que Dieu a créé est maintenant infecté par le péché. Un autre esprit, Satan, un ange que Dieu a créé, a séduit Adam et Ève, et le péché est entré dans le monde, et donc même la mort, la corruption, la maladie, pourquoi est-ce qu'il y a des cellules qui qui vont faire des choses bizarres dans un corps et produire des tumeurs et des maladies. C'est parce qu'il y a une racine spirituelle à ça. Amen? Donc, qu'est-ce que je veux que vous saisissiez, c'est que le monde invisible, c'est réel. Et tout ce qu'on voit qui est visible existe à cause de l'invisible. Et si tout a été créé par la parole invisible, tout peut être changé par la parole invisible aussi. Donc, les changements qu'on veut voir, c'est-à-dire que si un tumeur va disparaître, comment est-ce que ça va disparaître? Seulement quand les forces invisibles de l'esprit touchent cette tumeur et effectuent un changement, n'est-ce pas? Tout ce qu'on veut voir changer, il faut comprendre qu'il y a des choses qui doivent se passer dans le domaine invisible avant de les voir dans le domaine visible. Et si vous mélangez les affaires et dites, OK, je veux que le physique change avant de croire au spirituel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'esprit précède le naturel. La parole précède le naturel. Et la parole va être encore là même quand le naturel est disparu. Amen. La parole éternelle est pour toujours établie dans les cieux. Donc, quand Dieu a dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, ça, c'est une parole établie dans les cieux. Et si on est capable de l'appliquer à notre situation ici, dans notre vie physique, tant mieux. Mais si on ne le fait pas, ça ne change pas la parole. Ma situation va apparaître et disparaître. Mais sa parole ne changera pas. C'est comme une personne qui va vivre toute sa vie sur la terre sans jamais accepter Jésus. La parole dit que quiconque croit en lui, hein? Quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ça ne changera jamais. C'est pour toujours établi dans les cieux. La parole est invisible et toutes les choses visibles existent à cause des choses invisibles. Et puis, troisième chose qu'on va voir, c'est seulement les choses invisibles qui sont éternelles. C'est seulement les choses invisibles qui sont éternelles. Ça m'a aidé tellement dans ma vie, laisse-moi vous dire, de réaliser que oui, j'ai des problèmes des fois, oui, j'ai des défis. Des fois, j'ai besoin de recevoir la parole de Dieu dans ma vie pour changer les circonstances de ma vie. Mais ma réalité, c'est que, et ma conviction, c'est que même si pour une raison quelconque, les choses ne changent pas dans ma vie parce que j'ai manqué la connaissance, ou j'ai manqué la foi, ou pour X raison que je n'ai pas compris, ça ne changera jamais la parole de Dieu. Amen. Je ne veux pas l'embarrasser, mais j'ai un garçon ici aujourd'hui que le médecin a dit qu'il était mort dans le ventre de Tania. Et on a prié, et deux échographies, une prise de sang, a tout confirmé à trois reprises qu'il est mort, la grossesse est terminée. On avait prié, et c'est comme on ne peut pas prier pour une guérison, c'est pas une guérison, c'est vraiment un miracle, on a besoin d'une résurrection. Il y avait une soirée, je m'en souviens, on était en France, et je me promenais sur le balcon, au quatrième étage, là, tout seul, c'était vers minuit, et je priais, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, on ne sait pas comment prier, parce qu'on a déjà prié tout ce qu'on sait prier. Et Seigneur, tout ce que je sais, c'est que ta parole dit telle chose. Je crois que ta promesse pour tes enfants, c'est une longue vie ici sur la terre. Que la guérison divine appartient à chaque enfant de Dieu. Que c'est toujours ta volonté pour que tes enfants reçoivent la guérison et vivent une longue temps sur la terre. Ça, c'est ta parole, ça ne changerait jamais. Et j'ai dit, Seigneur, même si pour une raison quelconque, on n'a pas reçu la victoire cette fois-ci, des choses que je ne comprends pas. Peut-être on a manqué quelque chose ou on n'a pas compris certaines choses. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas toi, ce n'est pas qu'est-ce que tu voulais, parce que tu nous as donné une promesse pour cet enfant, tu nous as donné son nom, on sait que tu voulais qu'il soit né. Mais si pour une raison quelconque, il ne vient pas au monde et on n'a pas eu la victoire, je ne changerai jamais ma façon de croire, je ne changerai jamais ma façon de prêcher. Je vais prêcher plus que jamais auparavant que Jésus est vivant, que sa parole est vraie et qu'il veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde soit guéri. Je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie à prêcher ce message. Il est là. Sa parole est vraie. Amen. Mais, vois-tu, Mais il faut, et j'ai été sincère, je me suis lancé dans les bras de la grâce et de la miséricorde de mon papa. Je savais, Seigneur, tu m'aimes et je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Tu connais mon cœur. Je me lance dans tes bras de grâce. Mais qu'est-ce que je veux que vous saisissiez, c'est que la parole est vraie, la parole ne change pas, et même les circonstances ne changent pas pour une raison quelconque. La parole ne changera jamais. Et je ne peux pas changer la parole pour qu'elle soit conforme à mes expériences. Il faut que mes expériences soient conformes à la parole. Amen. Ça, c'est important. On va juste voir, pour terminer aujourd'hui, l'autre page de vos notes. La deuxième partie de ce message. On a vu un peu le problème de Thomas. Thomas a dit, « Si je ne vois pas, je ne croirai pas. » Mais il y a d'autres personnes dans la parole qui n'ont pas eu cette attitude. Abraham, par exemple. Abraham, Dieu a parlé, Dieu a donné une parole à Abraham et il a dit de quitter son pays, de quitter son peuple et d'aller dans un autre pays que le Seigneur était pour lui donner. Et sans savoir où il allait, sans voir quoi que ce soit, il a obéi à la parole de Dieu. Ça, c'est la foi, n'est-ce pas? C'est pas la folie. Il n'est pas parti de son propre gré en disant, bon, j'ai une idée, je vais aller trouver une terre promise. Non, il a entendu la parole de Dieu. Donc ça, c'est l'équilibre que je veux toujours établir ici, c'est que ne faites pas des choses bizarres ou stupides qui ne se basent pas sur les promesses de Dieu. Essayez pas de dire, oh, j'ai la foi, et Dieu va faire telle chose, et ce n'est pas la foi, hein. Je vais sauter d'une gratte-ciel et je vais voir, je vais montrer à tout le monde que j'ai la foi. Il y a des sectes qui vont boire littéralement du poison, ils vont prendre les serpents, parce que la Bible dit, hein, ils prendraient les serpents, ils vont littéralement aller chercher des serpents venimeux pour prouver qu'ils ont la foi. Ça, c'est de la folie. C'est pas du tout qu'est-ce que ce verset veut dire, n'est-ce pas? Mais là, si vous avez des choses que Dieu a promis, des choses que Dieu a dit, comme Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, il avait une parole de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Et ça, c'était un stylo. Regardons bien. Galates 3, 8 et 9 dans vos notes. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Tout le monde dit, je suis un croyant. Un croyant ne doute pas, un croyant croit, n'est-ce pas? La Bible ne parle pas aux douteurs ou les douteuses. C'est les croyants, n'est-ce pas? Ah, vous aussi, vous êtes douteur? Non. On dit souvent, ah, vous aussi, vous êtes croyant? Oui. Ici même, hein? Oui, je suis douteur, mais non pratiquant. Non. Oublie ça. Romains 4, 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont la foi d'Abraham? J'aimerais mieux avoir la foi d'Abraham que la foi de Thomas. Notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et on peut m'ajouter déjà. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, dans le naturel. Il ne douta point par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc on voit au moins trois éléments ici qui vont distinguer la foi d'Abraham avec la foi de Thomas. Thomas qui disait, avant de voir, je ne croirai pas. Abraham, c'était le contraire. Dieu l'a dit, j'y crois, j'agis par conséquence. Et premièrement, on voit, numéro un, que si on veut développer la foi d'Abraham, il faut apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Dieu, il fait cela. Et Dieu demande à son peuple de faire la même chose. Abraham, c'est le meilleur exemple que je donne souvent ici. Mais c'est bon de donner le même exemple des fois souvent parce que c'est par la répétition qu'on apprend des choses. Quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a donné la promesse à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation, il a changé son nom d'Abraham à Abraham. N'est-ce pas? Vous savez que dans l'Ancien Testament, les noms étaient beaucoup plus significants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire, ça sonne bon dans mes oreilles, j'aime ça, tel nom. Mais à l'époque de la Bible, un nom signifiait beaucoup. Et quand Dieu a dit à Abraham que son nom serait à partir d'aujourd'hui Abraham, il savait qu'est-ce que cela veut dire. Père d'une grande nation. Alors, Dieu appelait Abraham le père d'une grande nation même avant qu'il a eu l'enfant de la promesse. Et il a demandé à Abraham de dire la même chose que le père disait. Donc, vous savez, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est pas dire n'importe quoi, n'importe quelle situation, mais c'est dire la même chose que Dieu dit. Confesser la parole veut dire de dire la même chose que Dieu dit. Dieu m'a dit que je suis le père d'une grande nation, donc je dis la même chose à chaque fois que je me présente. Bonjour, ton nom c'est Daniel, je me présente, je suis le père d'une grande nation. Et il a fait ça pendant 20 ans. Une vingtaine, mais je ne sais pas exactement, il faut que je vérifie exactement le nombre d'années. À peu près une vingtaine d'années qu'il faisait ça, il se présentait comme le père d'une grande... Salut, je suis le père d'une grande nation. Ah ouais, c'est un vieil homme. Il n'a pas d'enfant sauf Ismaël qu'il a eu avec sa servante parce qu'il voulait donner un coup de main à Dieu. Donc, ça c'est... On pourrait dire naturellement parlant, les gens auraient pu dire « Ouh, là, Abraham, tu te présentes à tous les jours comme le père d'une grande nation. Tu es vieillard, ta femme est stérile, elle n'a jamais eu d'enfant, elle a dépassé l'âge d'avoir les enfants. Dans le naturel, le monde visible disait « Impossible. » Mais Abraham a cru à la réalité de l'invisible. Et qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que la parole de Dieu invisible a changé même les circonstances physiques. Sans aller en trop de détails, il était rendu capable de faire l'acte nécessaire pour faire un enfant. Et le corps physique de Sarah est devenu fécond. Amen. Là où il n'y avait rien, une stérilité était remplacée par la fécondité. Comment? Parce que le monde de l'esprit a agi et changé le monde naturel. Il a cru à la parole. Mais avant de voir, il n'a pas dit, « OK, Seigneur, voici la fin. » Dès qu'elle tombe enceinte, dès qu'elle a un enfant, et dès que nous avons des arrière-enfants, je vais commencer à dire à tout le monde, « Je suis le père d'une grande nation. » OK, c'est correct, parce que je ne veux pas que les gens rient de moi. Je ne veux pas qu'ils se moquent de moi. Il aurait pu répondre de même, mais il n'aurait pas été appelé le père de la foi, le père de ceux qui croient. Donc, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est là où on a besoin d'avoir la sagesse. Et des fois, il est important de faire notre confession devant les autres. Des fois, on peut garder notre confession pour soi-même, dépendant des circonstances. Amen. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est important, c'est de dire la même chose que Dieu dit en tout temps, sans faire des compromis. Dieu dit que par les meurtres de Jésus, j'ai été guéri. Si c'est vrai, j'ai été guéri, alors je suis guéri, n'est-ce pas? Si la parole de Dieu dit que j'ai reçu la vie éternelle, donc j'ai la vie éternelle, je suis maintenant enfant de Dieu. Je ne serai pas enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis maintenant citoyen du ciel. Est-ce que vous le croyez? Donc, numéro 2, fixez vos yeux sur la parole et non pas sur les circonstances. C'est ça qu'on a vu dans notre texte ici. Il a dit, et sans faiblir dans la foi, verset 19, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham a cru à la parole de Dieu. Et il a dit, je suis le père d'une grande nation, et il n'a pas fait ceci. Il a dit, je refuse de regarder les circonstances naturelles seulement. Je refuse de porter mon attention à qu'est-ce que je vois avec mes yeux. Qu'est-ce que je vois avec mes yeux dit le contraire. Tout ce que je vois, tout ce que je ressens, c'est que c'est faux, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Et 20 ans, 25 ans plus tard, il n'avait toujours pas vu les résultats. Mais il a cru et continué à confesser que je suis le père d'une grande nation. Donc, il y a des principes importants ici. Pierre, quand il marchait sur les eaux, il marchait sur la parole en réalité, parce que Jésus a dit, viens. Jésus a la parole et Jésus lui a donné la parole. Il marchait sur la parole, il avait les yeux à la bonne place, sur la parole. Mais dès qu'il a tourné ses yeux, il commençait à regarder les vagues. Wow, il regardait les circonstances. Qu'est-ce que je fais là? Ça ne marche plus. Il faut garder les yeux sur la parole. Il faut confesser la parole. Amen. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous manquez de sagesse? Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un d'entre vous manque de sagesse? Qu'il demande à Dieu, qu'il donne à chacun, qu'il donne à tous, librement et sans reproche, mais qui demande avec foi, sans douter. Quand l'homme qui doute est comme le flot de la mer, quand tel homme ne croit pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Donc il y a une place dans la foi où on a besoin de dire la parole invisible est plus réelle que le monde physique et visible que je vois. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je te remercie Seigneur que j'ai la sagesse de Dieu. Tanya et moi on sait. On a vécu des moments au début de notre ministère où on avait une décision majeure à prendre. Et la confusion essayait d'entrer dans notre vie. Il y avait des personnes qui mettaient la pression sur nous d'aller dans un autre État aux États-Unis pour devenir pasteur de jeunesse. Et c'était vraiment rendu la confusion parce qu'on avait autre chose dans notre cœur. Mais on a laissé la confusion entrer. Et finalement, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le temps de reculer et de c'est quoi la dernière chose que Dieu nous a dit clairement. Et on a écrit les versets de la parole qui promet la direction et la sagesse. Et on a commencé à déclarer, merci Seigneur qu'on connaît ta voix et une autre ne suivra jamais. Seigneur, merci que nous connaissons ta voix. Nous savons quand tu nous parles. Est-ce que je ressentais cela? Non. J'étais encore dans la confusion, mais je disais, je connais ta voix et une autre voix, je ne suivrai jamais. Seigneur, tu as dit dans la parole que tu nous montreras les choses à venir. Et je sais, merci Seigneur, que j'ai la sagesse et je sais exactement qu'est-ce que nous avons besoin de faire. Je le sais. Je sais clairement dans mon cœur le plan de Dieu pour ma vie. Je sais clairement dans mon esprit la direction que toi et moi, nous sommes supposés de prendre. On le sait. Je l'appelais comme si elle était déjà. Je n'ai pas dit, Seigneur, un jour tu vas me donner la sagesse. Je commençais parce que dans l'esprit, le Saint-Esprit qui connaît toutes choses était déjà en moi. Et mon esprit savait même avant que mon intelligence savait. Donc, qu'est-ce que je dis? Ce n'était pas juste du blabla. Je disais la même chose que Dieu dit. Merci Seigneur que je suis rempli de la connaissance de ta volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle. Je connais ta voix et non, je ne suivrai jamais. Savez-vous quoi? avec un peu de temps, la paix est revenue dans notre cœur, la direction était tellement claire, on savait exactement comment faire et quoi faire. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, au lieu d'être en Arizona. Amen. Et je suis content. Numéro 3, j'espère. Fixez vos yeux sur la parole et non sur les circonstances. 2 Corinthiens 4, 18 dit aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Tout le monde dit réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Et troisième chose qu'on a besoin de faire, c'est de glorifier Dieu avant de voir la manifestation de ce qu'il a promis. Ici, en verset 20, il ne douta point, on parle encore d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, comment? Donnant gloire à Dieu. Et je pense que souvent les personnes vont manquer la coche. Dieu va faire une promesse, ils vont prier, ils vont dire, merci Seigneur, tu as fait une telle promesse, je reçois cela au nom de Jésus. Ils vont commencer à croire qu'ils ont reçu. Mais s'il ne fait pas attention, il va commencer à regarder les circonstances et sa confession va changer. Au lieu d'être une confession de victoire, au lieu de dire la même chose que Dieu dit, il va commencer à dire qu'est-ce que les circonstances disent. Et ça, c'est dangereux. Donc, vous savez, souvent, les personnes qui commencent dans la foi peuvent être déroutées dans leur foi parce qu'ils donnent place au découragement des circonstances. Et le remède de cela, la chose qu'on peut faire pour éviter ce problème, c'est de donner gloire à Dieu. C'est-à-dire, si qu'est-ce que Dieu a dit est vrai, et combien de vous croyez que Dieu ne parle, il ne parle que la vérité, il ne ment pas. Si qu'est-ce que Dieu a dit est vrai, exemple, j'ai besoin de la sagesse, je demande, Seigneur, merci. J'ai une situation devant moi, dans le naturel, je ne sais pas quoi faire, mais je demande, Seigneur, au nom de Jésus, que tu me remplis de ta sagesse. Qu'est-ce que je fais après? Je dis, merci, Seigneur, que j'ai ta sagesse. Gloire à toi, Seigneur, je te remercie pour la sagesse. Et je me mets à louer Dieu et à glorifier Dieu pour la réponse avant de voir la réponse. Seigneur, merci, comme je dis. En citant la parole, merci que je connais ta voix. Merci, Seigneur, que je ne suis pas ici dans le monde comme un orphelin, mais tu nous as donné le Consolateur. Et il nous montre toutes choses. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne toutes choses. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui est malade, qui prie la prière de la foi pour la guérison, va dire, merci, Seigneur, on a prié la prière de la foi. La Bible dit, c'est pas moi, Jacques chapitre 5, dit, est-ce qu'il y a des malades parmi vous qui appellent les anciens de l'Église, qui loin de l'huile en prière, la prière de la foi, et la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Donc, une personne qui reçoit la prière pour la maladie, qu'est-ce qu'il devrait faire? Remercier le Seigneur. Merci Seigneur, on a prié, et je te remercie que tu gardes tes promesses. Merci Seigneur que par les mains précieuses de Jésus, j'ai été guéri. Et de la même façon qu'Abraham disait, je suis le père d'une grande nation, on peut dire, merci Seigneur, je suis guéri, au nom de Jésus. Mais le gars, physiquement, naturellement, il est impotent, sa femme est stérile, ça ne change pas le fait qu'il est le père d'une grande nation. Oui, mais littéralement, physiquement, les médecins disent qu'il y a encore des cellules dans ton corps qui sont infectées, et ça ne change pas la parole, j'ai été guéri par les mains précieuses de Jésus. Amen. Et quand on croit avant de voir, on voit plus tard. Si ça prend 20 minutes, 20 jours ou 20 ans, la parole ne change pas. Amen. Alléluia. Merci Père Céleste. Glorifiez Dieu. J'ai mis dans vos notes pour terminer un verset à propos du peuple de Dieu quand ils étaient face à Jéricho. Vous vous rappelez de l'histoire? Les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert, mais finalement, une génération qui croyait à la parole de Dieu était prête à aller prendre possession de la terre promise. Ils ont traversé le Jourdain. La première ville qu'ils ont rencontrée, c'était Jéricho. C'était une ville fortifiée. Dans le naturel, dans le domaine naturel, il y avait des murs forts, hauts, avec des soldats qui n'étaient pas du tout prêts à céder la place aux Israélites. Dans le naturel, c'était une chose effrayante, j'imagine. Ils sont face à face avec des murs qu'on peut toucher. Et ils voient peut-être le reflet dans le soleil des javelons et des armes de l'ennemi qu'on peut sûrement ressentir. C'est vrai. Mais Dieu a dit, je t'ai donné cette ville. Et les instructions étaient faciles. Vous faites le tour pendant 7 jours. Le 7e jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Mais la 7e fois, vous allez pousser un cri de victoire. Et qu'est-ce que la parole dit ici? C'est dans vos notes. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Comment est-ce qu'il a pu dire cela? On voit les murs, on voit les soldats prêts à nous tuer. Le mur est là. Mais Dieu a dit, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré déjà. Appelez la chose comme si elle était déjà. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et si le peuple de Dieu aurait dit, OK Seigneur, fais tomber les murs et on va pousser des cris. On attend. Seigneur, je sais qu'un jour tu vas livrer cette ville entre nos mains. Seigneur, je sais qu'un jour tu vas défaire ce peuple devant nous. Je sais qu'un jour ces murs vont tomber, Seigneur. Merci. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'espérance. La foi dit, non, Dieu a dit, et il m'a donné les instructions, donc je pousse les cris de victoire avant de voir, et puis je vois le résultat. C'est comme ça dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas juste encore de même. Moïse avait besoin d'étendre sa main avant que les eaux se séparent. Les sacrificateurs, quand ils ont traversé le Jourdain, la Bible dit que quand ils ont eu les pieds mouillés, ils avaient besoin de mettre leurs pieds dans l'eau avant que les eaux ont été séparées. Hein? Jésus a dit, étends ta main, va, lave dans la piscine de Siloam. Tu comprends? Il y a toujours une action de foi qui précède la manifestation. Et des fois, on agit et on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'on fait là? On glorifie Dieu et on garde notre confession et on dit la même chose que Dieu dit jusqu'au moment que les circonstances changent. Et checkez votre cœur. Demande, Seigneur, s'il y a des choses que j'ai besoin de changer, montre-moi ça. Ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que je peux voir ta Bible juste une minute? Marc 11, c'est quoi la prochaine chose après? Ouais. Marc chapitre 11, verset 1, je viens de citer un verset qu'on connaît tous quand on parle de la foi. Mais la suite est aussi importante. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, c'est-à-dire qu'on pousse des cris de joie, on confesse la parole de Dieu, mais si le Seigneur te montre que, hey, mais toi, tu as du pardon dans ton cœur contre telle personne, tu as besoin d'être débarrassé de cette amertume, de la rancune que tu as dans ton cœur, laisse le Seigneur faire son œuvre. Amen. Parce que ces choses-là peuvent venir et faire un bâton dans la roue aussi de notre foi. J'avais juste à cœur de dire cela aussi aujourd'hui. Encore, on prêche un message de vérité équilibré. La vérité, c'est que les choses invisibles sont une réalité. Tout ce qu'on voit qui est visible existe à cause du monde invisible. On sait aussi que c'est seulement les choses invisibles qui sont éternelles. Mais c'est à nous maintenant d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. De fixer nos yeux sur l'invisible, la parole, au lieu de fixer nos yeux sur les circonstances. Et de glorifier Dieu avant de voir la manifestation. De pousser des cris de joie, des cris de victoire devant les murs de Jéricho. Et ensuite, on va voir la manifestation. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout et on va remercier le Seigneur pour sa parole. Merci Père, au nom précieux de Jésus. Tu es bon Seigneur. Merci que tu as donné des promesses à tes enfants. Et Seigneur, merci qu'on est capable de pousser des cris de joie et des cris de victoire aujourd'hui même, au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez des croyants comme Abraham et non pas les douteurs comme Thomas. Et on va voir beaucoup de belles choses dans les jours à venir. On va fermer les yeux, on va prier. Vous savez que chaque dimanche matin, on aime donner une invitation à ceux et celles qui sont ici présents qui ont peut-être jamais eu la chance de donner leur vie à Jésus. Si vous êtes ici ce matin, il y a peut-être quelque chose dans votre cœur qui dit « Oui, Jésus est vivant. Sa parole est vraie. Il est vraiment venu pour moi pour donner sa vie sur la croix. » Et vous, ce matin, vous dites, moi je crois, j'ai jamais vu Jésus, j'ai jamais vu Dieu, j'ai jamais vu le ciel, mais je crois que ça existe, je crois que Dieu existe. Et je crois qu'il est bon et qu'il m'aime et qu'il a donné sa vie pour moi. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc aujourd'hui, si tu n'as jamais fait cela, peut-être tu dis, oui, je crois en Dieu, mais je n'ai pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. J'ai besoin de savoir sans aucune doute. Bonne nouvelle, le salut, c'est un don gratuit que tu ne peux pas mériter. Donc, je veux juste savoir, avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a une personne ou deux, plusieurs personnes qui ont besoin de donner leur vie à Jésus ce matin? Juste lever la main. Aimerais-tu que je prie avec toi pour que tu puisses partir d'ici, sachant sans aucune doute que tu es enfant de Dieu? Juste lever la main. Sinon, peut-être que le monde ici a déjà donné sa vie au Seigneur. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'amener plus de non-croyants le dimanche matin. Mais, je crois que ce matin, c'est important que nous, en tant qu'Église et en tant qu'individus, qu'on saisisse cette parole. Qu'on devienne des véritables croyants qui croient avant de voir. Ceux qui vont appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Ceux qui vont fixer les yeux sur la parole et non pas sur les circonstances. Et ceux qui vont glorifier Dieu avant de voir la manifestation. Amen. Donc, priez ceci avec moi. Père Céleste, je suis ton enfant et j'ai la foi de Dieu. Je crois à ta parole invisible et je suis convaincu de la réalité de ce que je ne vois pas. Je sais que tout ce que je vois est le résultat du monde invisible. Et que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. J'ai la foi d'Abraham. Je te crois. Et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je fixe mes yeux sur ta parole et non pas sur les circonstances. Et je te glorifie, même avant de voir la manifestation. Au nom de Jésus. Donc, poussons des cris de joie ce matin. Alléluia! Amen. Alléluia. Tenez-moi, on va aller à la porte.